Guillaume Lavoie.
Santé, identité, environnement, éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Guillaume Lavoie.
Allons rejoindre Nick Payne, à notre analyste politique maison. Bonjour, Nick.
Bonjour, Guillaume.
Alors, Nick, là, il s'en passe des choses, mais franchement, là, lorsqu'il y a une espèce de bataille à n'en plus finir entre des propositions gouvernementales et le système judiciaire, ça arrête jamais là. Alors, parle-nous de cette loi 96 qui vient de frapper un certain écueil judiciaire.
Oui, ben la nouvelle est sortie à peu près une demi-heure, là, donc la décision est tombée ce matin ou ce midi sous la plume de la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure. Donc, c'est un premier revers hein, pour Québec, là, pour la loi 96.
Alors, Nick, d'abord, pardon, donne-nous un peu loi 96-101, sans faux jeu de mots, là. De quoi il est question dans cette loi-là, avant qu'on comprenne pourquoi elle aurait été invalidée?
Alors, la loi 96, la réforme, si tu veux, la refonte de la loi 101 pour l'adapter aux défis de notre siècle, pour la remettre à jour et essayer de colmater certaines brèches apparues au fil du temps. Et lui donner un peu plus de mordant. Hein. C'est un projet qu'avait déjà Pauline Marois, et puis la CAQ l'a repris à son compte. À l'époque, incroyable mais vrai, c'est Mme Claire Samson qui portait ce dossier pour la CAQ longtemps avant de ne pas être nommée ministre et d'être assez fâchée pour se retrouver chez les conservateurs. Mais donc, cette loi, finalement, a été adoptée par l'Assemblée nationale, et c'est une loi très, très complexe et fastidieuse, avec beaucoup d'articles, beaucoup d'ambition, mais plusieurs trouvent que...
Ça embrassait large. Alors, quelles sont les portions qui sont mises en cause par les tribunaux?
Oui, c'est ça. Certains trouvent, par exemple, là, qu'on aurait dû faire le cégep en français, par exemple. Monsieur Jolin Barrette n'a pas réussi à convaincre François Legault d'aller dans ce sens-là. Donc, les dispositions suspendues aujourd'hui concernent l'obligation pour toute procédure juridique déposée en anglais au Québec, d'être immédiatement accompagnée d'une traduction en français. Alors, la juge pense que cette exigence, donc d'obtenir une traduction qui serait certifiée, évidemment, hein, et les délais que ça implique et les coûts que ça implique, pourraient constituer une sorte de frein dans l'accès à la justice. Alors, sur le fond, si on veut, elle va un peu dans le sens des juristes qui ont fait cet appel, si tu veux. Et il faudra voir ensuite, en novembre, là, le vrai procès sur le fond, la vraie cause sur le fond sera entendue. Mais pour le moment, donc, la juge Corriveau suspend ses articles. Là où cette question-là m'intéresse, moi, c'est que tu le sais, Guillaume, pour plusieurs des nationalistes qui gravitent autour de la CAQ, les anciens souverainistes devenus caquistes, les idéologues de cette famille politique large, là, plus ou moins souverainiste.
Très, très large, effectivement.
Oui, très large. Bon, chez certains d'entre eux, l'idée d'une crise hein, qui serait provoquée par des refus d'Ottawa, des affronts venant du système. Ici, c'est un peu ce qui se produit, là. Donc, bien sûr, parce que la juge suspend des articles en vertu de la Constitution canadienne. Hein. Alors, de tels affronts pourraient mener à une fièvre souverainiste qui permettrait, bien sûr, de paver le chemin pour un éventuel futur référendum. Alors là, on va le
mais
voir.
Mais ça, c'est Guillaume, Nick, c'est demain, toujours c'est, Nick, c'est cette théorie que il nous faut un conflit.
C'est ça,
et le
la
conflit,
théorie de la crise.
Ça nous prend une crise afin de montrer que ça marche pas. Et il y a toujours quelque chose d'un peu... Mais ça fait toujours un peu sourire.
Là.
Parce que ça veut dire qu'il faut créer la crise pour montrer que ça marche pas. Si ça marche pas, la crise devrait émerger d'elle-même, non?
C'est le fantasme du retour du lac Meech. Hein? Donc, le contexte béni du début des années 90 où les Québécois s'étaient soulevés. Mais depuis le départ, je pense que nous n'en sommes pas là. Je pense que les contestations, par exemple, à la loi 96, mais on peut penser à la loi 21 aussi, viendront au compte-gouttes, petit à petit, disséminées dans l'actualité. Par ailleurs, il n'y a pas à Québec de leader indépendantiste fort comme Jacques Parizeau à l'époque, prêt à prendre le pouvoir. Cette idée-là n'est pas dans les cartons, elle n'est pas dans les débats, elle n'est pas sur la table. Par conséquent, moi, j'ai plutôt l'impression que tout ça va s'éteindre tranquillement et que, oui, sans doute, les tribunaux vont invalider certains pans de la loi 96, mais que le grand moment de colère populaire ne sera pas au rendez-vous, contrairement à ce que pensent ces idéologues. Mais là, on va le savoir demain, là, Guillaume, que les gens vont se battre dans les autobus. C'est à suivre.
J'ai des doutes, mais moi, je pense toujours à la première version de la loi 101, lorsque Camille Lorrain l'avait présentée à René Lévesque, et René Lévesque de découvrir, presque avec effroi, l'étendue de la proposition du docteur Lorrain, et il avait déclaré: mes chers docteurs, on vous en demandait pas tant. Alors, on va voir ici quelle va être la suite. Restons dans cette extraordinairement vaste coalition qui est la coalition Avenir Québec, qui recrute Martine Biron, qui était jusqu'à son annonce l'analyste en chef, entre autres, de la situation politique à Québec. Comment est-ce que tu lis ça? On entend beaucoup les mots électoralisme, mais est-ce que c'est pas la base d'une proposition dans un contexte électoral?
Alors, c'est ça. On a beaucoup parlé de Martine Biron cette semaine et je ne reviendrai pas sur ce, sur la valeur ou la pertinence de sa candidature ou à propos de sa candidature. Mais ce qui m'a intéressé, c'est cette performance spectaculaire de Mme Biron pour adopter les codes de la langue de bois. Mais alors là, à une vitesse vertigineuse, elle est déjà excellente. Et donc, elle parlait, oui, de ce terme, de l'électoralisme. Tu te souviens, Guillaume, que lorsqu'elle avait critiqué le projet de troisième lien à Québec, lorsqu'elle était à Radio-Canada, elle avait dit « c'est un projet électoraliste, mal ficelé, etc., etc. » Alors, les journalistes lui ont remis ça sur le nez cette semaine, notamment Vincent Dessureau à notre micro. Et là, elle a répondu cette perle, elle a dit « ah ben vous savez, tous les projets de tous les partis politiques sont électoralistes par essence, j'ai envie de dire. Je paraphrase, mais c'est le sens de ce qu'elle disait. Or, Guillaume, là, on prend les gens pour des imbéciles. L'électoralisme présuppose que on fait passer son intérêt électoral avant
l'intérêt général,
si on veut. Ben oui, c'est ça. C'est péjoratif, c'est négatif comme expression. Ce n'est pas un programme électoral. Là, on parle d'un programme électoraliste. Ce n'est pas la même chose. Et Mme Biron, qui est journaliste, connaît très bien le sens des mots. Elle ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle nous enfumait en disant ses fadaises sur l'électoralisme. Alors, non, bien sûr, tous les projets, tous les programmes de tous les partis ne sont pas systématiquement électoralistes, sans quoi ce serait vraiment épouvantable. Au contraire, la plupart du temps, les partis politiques s'efforcent de proposer des choses intéressantes et qui vont bel et bien dans le sens du bien commun. N'en doutons pas, même si il y a des Éric Duhaime qui arrivent parfois avec, oui, une dose d'électoralisme un peu plus forte que d'autres, mais là, vraiment, Mme Biron nous prenait pour des cons, pardon de le dire aussi crûment, et ça m'impressionne de la part de quelqu'un qui, hier encore, aurait été la première à dire, mais qu'est-ce que c'est que ce double langage de mauvaise qualité?
Ouais, il faut croire que les lois de la politique et les lois du journalisme ne se rencontrent pas dans le dictionnaire. On va le dire comme ça.
Oui.
Nick Payne, notre analyste politique en résidence, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Salut.